Donc, on reprend tout. Pour comprendre le latin, il faut avoir un minimum de grammaire française. La dernière fois, j'avais beaucoup insisté, nous insistons à nouveau. Parce que si on n'a pas cette base-là, c'est trop difficile. Vous prenez la page 1 et on va relire posément. Alors, pour ceux qui ont oublié leur feuille de la dernière fois, ça se l'intonne. Laurence, qui n'a pas les feuilles de la dernière fois? Voilà. Comme moi-même le... Voilà. Qui n'a pas les feuilles de la dernière fois? Toutes les feuilles, hein. C'est pour Laurence. Voilà. Alors, la feuille 1. Tout le monde a la feuille 1, grammaire française et grammaire latine. Oui. Donc la règle 1, on l'avait déjà vue, mais on la revoit. En français, les noms, adjectifs, pronoms et verbes changent de forme et de terminaison. Soit selon le nombre, singulier ou pluriel. Un chien, des chiens, il y a un S qui apparaît. C'est du latin? Non, pas vraiment, mais enfin voilà. Je mange, elle mange. Vous reconnaissez le pluriel par la fin du mot. En latin, ça va être tout le temps. C'est la fin des mots qui nous disent si c'est un sujet, si c'est un complément. Le genre féminin et masculin. Pour beau et belle, c'est très net. Mais pour d'autres mots, ça ne change pas. Enfin, comment dire, il y a des noms qui sont... mais c'est pour les adjectifs. Ou alors, suivant le nombre, vous avez un cheval, des chevaux. Voyez, si je vous dis « Ah, chevaux !» sans mettre d'article, eh bien, vous comprenez qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Et selon le temps, j'aime ou j'aimais, mais pas selon la fonction grammaticale. Vous voyez, c'est ça la différence par rapport au latin. C'est selon le nombre, le genre et le temps. En français, la fonction grammaticale d'un nom dans une proposition est indiquée par sa place. Normalement, on met le sujet au début, on met le complément à la fin. Par une préposition aussi. En latin, il y a des propositions, mais pas beaucoup moins qu'en français. C'est-à-dire, par la force de ses armées. Rome a vaincu la Grèce par la force de ses armées. Eh bien, en latin, on ne mettra pas « par » ici. On mettra une fin de mot pour « force » qui signifie « par ». Par le sens de la phrase. Vous voyez, nous, si on mettait « armée, Rome, Grèce, vaincue, force », waouh ! Eh bien, c'est pourtant ce que fait le latin. Vous voyez ? Et donc, il y a certains auteurs latins qui s'amusent à jeter les mots dans tous les sens. Pour notre part, le latin chrétien sera beaucoup plus simple. Le latin comprend des mots invariables, des adverbes, comme en français, des conjonctions, mais où est donc ornicar, n'est-ce pas ? Et des mots variables, les noms, les adjectifs, les pronoms aussi changent. Mais... en français aussi, sa maison, son chien, les pronoms et les verbes. En latin, on divise chaque mot variable en deux parties. Le radical, c'est le mot, la racine du mot, et la terminaison ou finale ou désinence. L'ensemble des terminaisons d'un mot s'appelle la déclinaison. Alors, ce qui fait qu'en latin, la fonction grammaticale des mots variables est reconnue par le changement que subit la finale ou terminaison de ces mots. Un mot latin change donc de terminaison selon la fonction grammaticale qu'il a dans la phrase. Comme en français, la terminaison d'un verbe indique la personne et le nombre du sujet. Une rose, des roses. Mais ça, pour le nombre, c'est comme en français. Pour le genre, c'est comme en français. Il y a certains mots, belle, c'est féminin, beau, c'est masculin. Le temps, le nombre et la personne pour les verbes. Mais, en latin, et là nous allons passer au grand tableau, c'est autre chose. On va appeler nominatif le fait d'être un sujet dans la phrase. Alors, si on prend le livre, et qu'on regarde la page 17 à nouveau, Dominus dixit. Je vous ai dit que la fin des mots signifiait leur fonction grammaticale. Vous avez en face de vous la page 17 et le tableau des fonctions grammaticales. Jean-Daniel, vous ne l'avez pas?
Page 17, j'y suis.
Oui, mais les feuilles, vous les avez oubliées. Ah, alors vous mettez le tableau et la page 17 à côté de l'un à côté de l'autre, comme ça.
Voilà, page 2, d'accord. Oui.
À page 2. Vous mettez bien en face. Ici, dans ce tableau de la page 17, on vous donne le mot Seigneur, Dominus Vobiscum. Le mot « Seigneur » ici va changer d'aspect suivant ce qu'il fait et ce qu'on lui fait. Le nominatif, c'est le sujet. Mais c'est aussi l'attribut du sujet. C'est-à-dire, le Seigneur est bon. On dira « Dominus bonus est ». Alors, si on faisait du français, l'ordre des mots français, on dirait « Dominus est bonus ». Le Seigneur est bon. Mais les latins mettent les verbes, en règle générale, à la fin des phrases. Donc, on dirait « Dominus bonus est ».« Dominus », c'est le sujet. Le « us », la plupart du temps, est un sujet. Attribut du sujet, ça va être souvent un adjectif, avec les verbes d'état, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça en français, ou alors le nominatif, c'est la position, c'est-à-dire un mot qui explique le sujet. Marie, mère de Dieu, nous aime. Napoléon, empereur des Français, a fait de nombreuses guerres. Et là, c'est le nominatif. Donc, si vous voulez, ça vient d'ailleurs du nomen, c'est le mot dans sa fonction la plus simple, le sujet. Dominus vobiscum, cite, mais on ne le dit pas. Que le Seigneur soit avec vous. Et on ne traduit pas « soit », qui est en latin « sit ». Normalement, on devrait dire « Dominus vobiscum sit ». Que le Seigneur, sujet, soit, sit, vobis, cum. Alors là, c'est amusant, parce qu'avec « cum » et un pronom personnel, on les colle. Cum vobis. Que le Seigneur soit avec vous, c'est Dominus sit cum vobis. Dominus, c'est le sujet. Sit, c'est le verbe. Soit, Vous savez, en français, en latin, hein, S-O-I-T et S-I-T, il n'y a qu'un O qui est apparu. Le Seigneur, celui qui est le maître du domaine, site, soit, cum, avec, compagnon, c'est celui qui mange le pain avec vous, cum panis. Et cum vobis. Et alors, vobis, c'est le vous avec une fonction grammaticale particulière. De nominatif, c'est le sujet ou la position. Vocatif, on appelle la personne. Et ça, on se dit, mais quand même, pourquoi changer la fin du mot pour ça? Eh bien, si. Alors, il y a certains mots où, entre le sujet et le vocatif, on ne change pas la fin. On ne change pas la déclinaison. Mais, dans Dominus, comme il est très présent dans le latin chrétien, je ne peux pas ne pas vous dire que « Oh Seigneur !» c'est « dominé ». Ensuite, l'accusatif. Regardez bien le tableau. Nominatif, vocatif, accusatif. L'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Celui sur lequel, l'objet sur lequel l'action se passe. Dieu pardonne quoi? Les péchés. Ne volez pas de l'argent. Ah, alors là, vous voyez, le français met une préposition alors qu'en fait, c'est un complément d'objet direct. Je crois Dieu miséricordieux. Et alors là, c'est une petite complication sur laquelle je vais passer. C'est que lorsque je crois qui? Dieu. Je fais confiance en Dieu qui est miséricordieux. Eh bien, ça sera l'accusatif. Credo Deum miséricordieux, je n'ose pas vous le dire comme ça. Parce que c'est miséricordia, mais miséricordieux, c'est pas le mot en français. Alors, comment?
Bonum.
Miséricorse. Miséricordem, alors ça serait. Deus miséricordem. Bonus, par exemple. On appelle Saint-Pierre le premier pape. On appelle, c'est-à-dire on donne un nom. Donc ça sera un accusatif. Le premier pape, ça sera aussi l'accusatif. Et regardez l'accusatif. Laudate dominum. Donc, je crois Dieu bon, ça sera credo deum bonum. Ça sera un attribut du complément d'objet direct. Ici, l'important, c'est le sujet nominatif, l'apostrophe vocatif, le complément d'objet direct accusatif. Et là, on avance. Génitif, le complément du nom. Qu'est-ce que c'est que ce complément du nom? En français, c'est tout simple. La volonté de Dieu, la porte de la maison. Mais en latin, c'est un aspect particulier de la fin du mot. Et c'est un aspect tellement particulier qui détermine les genres de mots. Par exemple, les mots féminins auront un génitif particulier. Les mots masculins, d'une certaine déclinaison, auront des génitifs particuliers. Complément du nom. Et pour Dominus, c'est I. Verbum Domini, la parole du Seigneur. Ensuite, il n'y a que 6 fonctions grammaticales à connaître, pour connaître le latin. Qu'est-ce qu'un sujet ? Est-ce que j'apostrophe quelqu'un? Est-ce que je lui parle directement? En liturgie, c'est souvent, donc il faut connaître ce cas. L'accusatif, c'est complément d'objet direct. Le génitif, c'est le complément du nom. Le datif, c'est le complément d'objet indirect. Alors, les grammariens ne sont pas contents, donc c'est à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour qui, pourquoi, contre qui, contre quoi. Ce sont des mots qui peuvent être un piège par rapport au complément circonstanciel, mais qui vous permettent de repérer le complément d'objet indirect. Obéissez à qui ? Complément d'objet indirect en français, datif en latin. L'ablatif, c'est le complément circonstanciel. De temps, de lieu, de but, de cause, de manière, de moyen, d'accompagnement. Quand, où, par où, pourquoi, mais là, pour quelle raison, hein ? À cause de quoi, comment, avec quoi, avec qui ? Tout cela, voyez-vous, il faut le savoir tranquillement. Sujet. Donc vous dites dans votre tête, sujet, je ne vais pas faire avec comme les enfants, non ? Vous répétez. Sujet. Bon. Apostrophe. Complément d'objet direct. Complément du nom. Complément d'objet indirect. Et complément circonstanciel. Ça, par contre, c'est indispensable. Et à quoi on voit que c'est indispensable ? Dominus Dixit, page 17. Le Seigneur a dit. Domine non sum ignus. Seigneur, je ne suis pas digne. Laudate Dominum, loué qui ? Le Seigneur. Verbum Domini, la parole du Seigneur. Cantate Domino, chanté pour le Seigneur. Et Domino adjuvante, par le Seigneur aidant. Et alors, quand vous tournez la page, page 18, vous avez le même tableau que ma page 2. Les déclinaisons, ce n'est pas autre chose que cela, dit-il, par rapport à « je, me, moi, il, le, lui, lui ». Il vous donnait des exemples. Un cheval, des chevaux. « Je, me, moi, il, le, lui, lui ». Voyez, c'est les déclinaisons françaises. Tandis qu'ici, page 18, le petit tableau vous dit « nominatif ». Sujet ou attribut du sujet, c'est quoi ? Hein ? L'attribut du sujet, c'est l'adjectif avec le verbe être. C'est pas très compliqué. L'apostrophe, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif, tout ça, c'est... Vous devez essayer de saisir... le sujet... L'apostrophe, le complément d'objet direct, le complément du nom, le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. En français, on met les cas dans ce sens-là. En allemand, je crois qu'ils mettent le génitif avant. Ou...
Génitif, génitif, datif, oui. Et après j'ai vu.
Voilà. Ils mélangent tout. Enfin non, ils ne mélangent pas tout, c'est leur façon, c'est leur grammaire. Mais en français, on décortique le latin en faisant sujet, apostrophe, complément d'objet direct, complément de nom, complément d'objet indirect, complément circonstanciel. Et regardez page 18. Dominus, sujet ou attribut du sujet. Domine, apostrophe. Dominum, complément d'objet. Domini, complément du nom. Domino, complément d'objet indirect. Et domino, ablatif. Donc ici, voyez-vous, le caractère didactique de ce livre, c'est qu'on fait les choses pas de manière grammaticale, mais de manière intuitive. Mais c'est vraiment très important de connaître ce tableau de la page 18, hein, qui est le tableau de ma page 2. L'exemple, tout de suite. Page 19. Gloire. Il n'y a pas de verbe dans l'exemple. La gloire, c'est le sujet. Et le verbe, c'est sit, c'est le que la gloire soit où? In excelsis. Pour qui? À Dieu, Deo. Et in terra, et sur la terre. Pax, sit. À qui? Au minibus. Et quel est le complément de ce nom? Les hommes qui ont une bonne volonté, qui n'ont pas un chien, hein, mais une bonne volonté. Mais c'est complément du nom. Alors, ce qui fait que, sans déjà connaître par cœur les fins de mots, je ne vous demanderai jamais vraiment du par cœur, mais je vais tellement vous répéter les choses qu'à la fin, vous le saurez. Gloria, nominatif. In excelsis, ablatif. Gloria, nominatif, c'est le sujet. In excelsis, ablatif, pluriel, c'est le complément circonstanciel de lieu. Deo, complément d'objet indirect. À qui la gloire? À Dieu. Et où aussi ailleurs? Sur terre. Complément circonstanciel de lieu, avec une préposition. Mais sans même la préposition, ici c'est de l'ablatif, complément circonstanciel. Pax, ici c'est du nominatif, c'est sujet, avec le verbe être sous-entendu. Omnibus, ibus, ici c'est datif et ablatif dans le mot omen. Et donc, omnibus, c'est du, ici, c'est comme c'est pour les hommes, c'est du datif. Bone voluntatis, alors là, c'est du génitif, complément du nom. Et alors, il va vite, mais c'est pour vous donner des exemples agréables pour vous, de latin chrétien. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Ici, il vous décortique le Gloria. Et qu'est-ce qu'il met? Gloria, nom féminin, Gloria, gloire. De la première déclinaison. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Stop. Première déclinaison, les mots féminins.
Oh.
Deuxième déclinaison, les mots masculins. Oh. Troisième déclinaison, les mots, les moins 50% des mots ou masculin ou féminin, la plupart du temps masculin. Mais alors là, je simplifie. Première déclinaison, féminin. Deuxième déclinaison, masculin. Troisième, masculin, féminin. Et il y a aussi un truc, c'est ni masculin ni féminin, c'est neutre. Mais c'est neutre, ça veut dire né ou terre, ni l'un ni l'autre. Mais en fait, pour nous, comme le neutre n'existe pas vraiment, on est insensible à ça. C'est comme un troisième genre. Ensuite, la quatrième déclinaison, c'est en règle générale des mots. Ils sont très peu nombreux, ils sont une vingtaine. Et la cinquième déclinaison, ils sont une dizaine. Et alors, donc, in, préposition, regardez page 19, hein. In, préposition qui signifie dans ou sur, et qui dans certains cas, comme ici, gouverne l'ablatif. Excelsis, non neutre, excelsum, de la deuxième déclinaison, ici à l'ablatif pluriel, parce que précédé de la préposition in. Non masculin, deo, de la deuxième déclinaison, ici au datif singulier. Et, conjonction de coordination, Terra, nom féminin de la première déclinaison, ici à l'ablatif singulier parce que précédé de la proposition in. Pax, nom féminin de la troisième déclinaison, ah, ils me font mentir. Hominibus, nom masculin de homo, hominis, de la troisième déclinaison, ici au datif pluriel. Bonnet, adjectif de la première déclinaison, on dit première classe, parce que féminin, génitif féminin singulier. Mais alors ce que je vous dis, c'est vraiment, il y a des grammairiens, ils seraient fous de rage. Hein. Voluntatis, nom féminin de la troisième déclinaison, il me fait encore mentir, ici au génitif singulier. On tourne la page. Page 20. Ainsi donc, nous venons de voir des noms masculins, féminins, neutres. Il y a trois genres en latin. Nous voyons également des noms de la première, deuxième, troisième déclinaison. Il y en a cinq en tout. Et nous voyons également un adjectif de la première classe. Il y a deux classes d'adjectifs en tout et pour tout. Enfin, nous avons rencontré à deux reprises la proposition « in ». Les prépositions « gouvernent » soit l'accusatif, soit l'ablatif. Ou l'un ou l'autre selon les circonstances. Remarquez la ressemblance avec le français. « Gloria, gloire, Deus, Dieu, terra, terre, pax, paix, homo, homme, bonus, bon, voluntas, volonté. » C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, en tant que Français, on est, on est à l'aise par rapport à d'autres langues. Mais le latin permettait une extraordinaire, une extraordinaire langue universelle. Vous voyez ? Alors, la prononciation ici, il y a toute une leçon redoutable à la fin du livre. Ouais, il décortique, mais c'est effrayant. Alors, ici, on va prendre la feuille simplifiée de la prononciation. Prononciation romaine du latin. Vous l'avez ici. Prononciation romaine du latin. Qui ne l'a pas ? J'en ai d'autres. Normalement, il y en a deux. Hein. Vous avez deux tableaux de la prononciation. Alors, qui n'en a qu'un ? Prononciation romaine du latin. Parce qu'il y a deux tableaux. Il y en a un avec la prononciation restituée que certains ont apprise et la prononciation du latin chrétien.
J'ai bien l'autre prononciation. Pour celle-là, je l'ai.
Oui. Alors, je voudrais que vous montriez ces deux tableaux. Vous les avez devant vous ? Si. Vous n'avez que celle-là. La prononciation restituée, je viens de vous la donner.
Non, c'était un.
Voilà. Alors, qui n'a pas ces deux tableaux devant lui ? C'est vous qui ne les avez pas devant vous. Vous les avez agrafés.
Oui.
Alors, maintenant, on regarde. On va prendre prononciation du latin avec la prononciation restituée. A, aura. Prononciation restituée quand les universitaires ont voulu essayer de remonter dans la formation des mots. Hein? Aura, ils ont respecté le A. Ils n'ont pas dit ça va se prononcer E maintenant. Non. Aura. A, E. Aïe, aïe, aïe. Ça se prononce E. Énigma. D'ailleurs, ça manque ici. Je vais mettre « et ». C'est ce qu'on appelle une diphtongue. Mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. Et par contre, dans la prononciation restituée, ils font ae, aenigma. Tandis qu'en latin, alors, mais il y a 2000 ans, ils disaient ae. En tout cas, actuellement, les Italiens disent e pour ae. Du coup, voyez-vous, lorsqu'on prend le mot rose, rosa, 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 rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis, pom, pom. Quand Jacques Brel dit, chante la première déclinaison, rosa, 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 rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. En prononciation restituée, on devrait dire rosa, 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 non, rosa, 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 et rosa, 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 et rosa, et rosas, rosa, rum, rosis, rosis. Parce que le AE est coupé. Eh bien, nous, on va prononcer à l'italienne, à la romaine. Et alors, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire en premier début de cours, rosa, 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 rosé, rosa, rosa. Rosa, la rose est belle. Oh, rose, rosa. Je vois une rose. Rosam. La beauté de la rose. Rosé. Je parle à la rose. Rosa. Rosé, pardon, à nouveau. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa. Et je décore l'autel avec une rose, rosa. Donc le datif est comme le génitif dans la première déclinaison. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa. La rose est belle, rosa. Bella est. Oh, rose, tu es belle. Rosa, bella es. Je vois une rose. Vidéo rosam. La beauté de la rose. Pulcritudo rosé. Je donne de l'eau à la rose. Do aquam rosé. Je décore l'autel avec avec une rose, orno altare, parce que c'est du neutre, rosa, avec une rose. Les roses sont belles. Rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Rosé, belle sunt. Son, c'est S-U-N-T. Oh, rose, vous êtes belle. Rosé, belle sunt. D'ailleurs, c'est pulcra. Belle, c'est un pur le francis complètement. C'est pulcre sunt. Je vois les roses. Vidéo rosas. La beauté des roses. Pulcre duto rosarum. Je parle aux roses. Rosis. Et je décore l'autel avec des roses. Rosis. Et là, voyez-vous, le datif et l'ablatif pluriel sont presque toujours identiques. Si on reprend la prononciation, aura, enigma, ait, bon, hein, il dit, ait, bene, c'est, de faire de manière bonne, c'est un adverbe, là, il n'y a pas de problème. C'est devant A, O ou U, c'est K, il n'y a pas de problème. Peccatum, il n'y a pas de problème. Par contre, ils nous ont fait un truc amusant. Le C devant le E, le AE, le OE, le I, alors que en latin c'est doux, hein, c'est chelum, une sorte de ch, de deux C, mais il y a un petit T avant, vous voyez, c'est chelum. On ne dit pas chelum, on dit chelum, mais c'est la même chose. Par contre, en latin restitué, ça sera chelum. Oubliez ça par pitié. Ecce. Ils vont faire ecce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pas la même chose. Brachium, brachium. Deus, deus. Credo, credo. Facere, facere. Pas la même chose. Pourquoi ils ont fait ça ? Dans la théorie du complot, c'est pour qu'on ne prononce plus le latin comme à l'église.
Bah oui, c'est du peuple républicain.
Facere. Agimus. Agimus. Hein, c'est de la guimauve, tout ça. Bon. Agnus. Agnus. Pour, chez eux. Tandis que dans la prononciation. En fait, la prononciation romaine est très proche du français. Et là, ils ont voulu faire une prononciation restituée qui arrachait la langue. Oui. Ora, ora. Miki, mi. Parce que c'est K, hein, le H. So, il est muet sauf dans Miki et Nikil. Bon, c'est pas très grave. Ça. Diei, diei. Jesus, Jesus. Kalende, kalendae. Mille, mille, Maria, Maria, Natura, Natura, Ordo, Ordo, Pulcher et Pulcher, tout va bien. Aqua, Aqua, Religio, Religio. Nous, on, c'est DJ, hein. Et eux, c'est G, dur. Salus, Rosa. Et alors, méchamment, hein, ils mettent le S ici en se, rossa. Mais ça correspond même pas. Non, c'est affreux. C'est pas le français, c'est rien. C'est, on sait pas ce que c'est. Ils disent si, les latins parlaient comme ça. Chelus, et eux c'est skelus, timeo, gratia, et ils diront gratia. Je vous parle avec grâce. Gratia. Au lieu de gracia. Mais c'est pas gracieux, c'est sûr. Ensuite, le U en OU, ce qui vous donne Guelfucci, n'est-ce pas ? La prononciation italienne. Vous pouvez vous limiter à Guelfucci, mais Guelfucci, ça, c'est pas. J'ai un nom du Sud, je suis né à Paris, mais c'est comme ça. Je ne vais pas vous dire Guelfucci ou Guelfucci avec deux C, les gens disent mais deux Guelfucci deux S I c'est bon. Donc mon nom lui-même est un cas de prononciation à l'italienne, enfin dans les langues latines. Ous à ma vie, et eux disent à ma oui, n'est-ce pas, il n'y a pas de W. Exaudi, et eux ça va être Exaudi aussi, ils sont gentils. Très 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 rare, c'est Mystice, le Y c'est en I, et eux veulent le prononcer U, qui a certainement pas existé chez les latins. Alors là, Mystice, n'est-ce pas,
c'est chez
les
Allemands,
c'est du grec.
Oui.
Le curier,
on dit curier.
On devrait dire curier, mais on dit curier.
Oui, mais c'est la prononciation romaine. Il ne faut pas tout mélanger. À vouloir faire de l'archéologie dans les prononciations, on peut aussi, je peux aussi vous parler serbo-croate.
Le curier en
grec.
En romain, comment on le prononce ?
On dit curier. On dit curier.
Pas curier. Hein.
Non, curier.
Et dans les pays germaniques, on dit plutôt curier.
On dit
curier.
Oui, mais ça, ils ont gardé l'ancienne prononciation.
En grec, les grecs se disent U.
Tout à fait.
C'est du grec.
Voilà, mais c'est du grec. Et nous, nous avons simplifié On ne doit pas pousser les gens à faire de l'archéologie dans la parole.
Ça fait 1000 ans que l'Église emploie.
Zélus. Et eux vont dire Zélus. Bon. Mais ça, c'est pas très grave. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de la page 21. Mais auparavant, on va faire un petit exercice de prononciation avec les prières du chrétien. Oui, vous faites passer. Voilà. Vous faites passer. Voilà. Qui n'a pas eu les lettres? Voilà. Alors, on va prononcer. On dit pas un. Voilà. Oui, oui. On dit pas un nomen. On dit pas un nomin patris. Un nomin, c'est le pur français. Hein. Un nomin. Non. Un nomin patris et filii. Et spiritus sancti amen. Voilà. Donc, amen, c'est de l'hébreu. C'est pas du latin. C'est ainsi soit-il. Cosa sia, je crois, que disent les Italiens. Que ça soit ainsi. Donc, le I se prononce fortement. Alors là, vous allez prendre la deuxième feuille de prononciation. Celle qui est sans la prononciation restituée.